Salut Eric, comment ça va?
Toujours aussi bien qu'il y a quelques minutes, mon cher ami.
Formidable.
Écoute, ça va beaucoup mieux qu'à Alabama parce qu'hier, il y a eu une histoire incroyable. Vanderbilt qui a battu Alabama. C'est
ben
un
oui.
petit peu comme si cette année, Sherbrooke battait le Rouge et Or ou à l'Université de Montréal au football. Ça s'est jamais vu. Vanderbilt n'a jamais battu une équipe classée première. Et puis, je sais pas si vous avez vu des images des jeunes étudiants qui ont
envahi le terrain.
Envahi le terrain. Des fois, c'est parfois dangereux. Mais en tout cas, c'est une grosse histoire aux États-Unis, ça, cette victoire de Vanderbilt. Et puis, c'était intéressant de voir Nick Saban avant match dire que c'était quasiment impossible qu'Alabama perde, mais ils ont perdu 40-35.
C'est incroyable, ce genre d'histoire-là. C'est pour ça qu'on suit le sport, pour les émotions. Une des intrigues que tu vas suivre dans la LNH cette saison, là, la relation Tortorella-Michkov. Là, tout semble au beau fixe. On semble, tu sais, je veux dire, Michkov a connu un bon calendrier pré-saison. Tu sais, en bon français, là, quand ça va bien, ça va bien. Tu sais, on cite les boys, c'est une phrase très, très connue du film, là. Mais des fois, quand l'adversité commence à arriver, c'est là que ça peut, comment je peux dire, le caca peut prendre dans le ventilateur. Tu sais, je veux dire ça comme ça.
Je vais utiliser une autre image. Présentement, c'est la lune de miel, clairement. En tout cas, c'est ce qu'on nous démontre, la lune de miel. Puis ça me fascine parce que je te donne les acteurs en place. Daniel Brière, ça fait à peine 18 mois qu'il est GM des Flyers. C'est tout nouveau, OK? Michkov a 19 ans, n'a jamais joué dans la Ligue nationale. On compte pas les matchs en concours, parce que c'est des statistiques qui comptent pas.
Non.
Et là, t'as Torts, ça fait 38 ans qu'il est entraîneur, 35 en chef, 25 dans la Ligue nationale en chef, OK? C'est un gars d'expérience. On connaît Tort. Il aime pas les joueurs qui trichent. Là, j'écoute ce que Tort dit. Brière, lui, est quand même assez lucide. Je sais qu'il va y avoir des étincelles. Je sais qu'il va y avoir de la friction. Mais je pense qu'on va être capable de gérer tout ça à l'interne. Michkov, lui, il est enthousiaste. Et Tort dit, ben, on va lui donner de la place là pour évoluer. Là, wait a minute, là. John Tortorella qui dit qu'il va donner de la place à un jeune joueur pour évoluer, tellement que quand Michkov va compter son premier but, j'insiste, là, match hors concours, qui veut rien dire. C'est dans un filet désert, à la fin d'un match, qu'est-ce que Michkov a fait? Puis ça, c'est extraordinaire. C'est un jeune de 19 ans, plein d'enthousiasme. Il saute dans les vitrées comme Ovechkin faisait dans ses belles années. OK?
Et
Torts qui dit, wow! Quel bel enthousiasme, quelle belle énergie. J'espère que ça va rejaillir sur notre équipe. Excuse-moi, Greg, j'achète pas ça deux secondes.
Est-ce qu'il y a quelqu'un a surveillé la température de John Tortorella, Eric?
Non, mais clairement, là, Tort qui dit en plus, on va lui donner de la latitude pour évoluer. Mais en même temps, dans la même phrase, il dit, on va quand même surveiller la longueur de ses présences et ses replis quand on n'a pas la rondelle, pas son jeu défensif, on n'est même pas là dans sa zone. Là. Juste quand on va perdre la rondelle en zone neutre ou en zone offensive, à quelle intensité va se replier? Ça, on va surveiller ça. Écoute, je te dis pas que ça va échouer, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que avec ce qu'on sait, que Michkov est un jeune garçon qui a déjà eu une attitude d'enfant gâté, peut-être qu'il a fait les ajustements depuis, qu'il a pris la maturité. Torts, je le répète, 38 ans, là, ils changeront pas son style. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Torts, c'est un gars qui va te demander d'être authentique, d'être honnête et de ne pas tricher. Moi, je respecte ça.
Oh oui.
Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que, tu sais, les Flyers étaient 27e l'année passée au niveau des buts comptés. Ils ont besoin d'offensive.
Il y a beaucoup
Ils ont besoin de sa créativité. Tortorella dit, nous, on va le laisser être créatif. Et Brière, là-dedans, il est coincé. Parce que je te rappelle, Olivier et Greg, je vous rappelle, c'est pas lui qui a nommé Tortorella comme entraîneur-chef. Je suis pas sûr que ça aurait été son premier choix. On s'entend.
Fait que non,
ça
c'est
va
un
être
année...
intriguant de voir ce qui va se passer à Philadelphie. C'est une organisation, c'est une franchise importante dans cette ligue-là. C'est un marché excessivement important pour les Flyers dans la Ligue nationale. Fait que j'ai hâte de voir ça. Et là-dedans, moi, c'est Brière.
C'est une année...
Je veux voir comment il va gérer ça.
C'est une année qui est très, très importante pour John Tortorella. On doit avoir une progression. Puis une progression dans le cas des Flyers, c'est de faire la danse du printemps. C'est de s'en aller en séries éliminatoires. Et je veux dire, les cas de Michkov et Luchenko, qui ont été leur premier choix au repêchage, se doivent de rapporter des dividendes C'est certain. Et là, je dis pas que Michkov doit absolument remporter le Calder, par exemple, tout ça, mais on doit voir. Pour moi, ce que je vais suivre, notamment dans cette relation-là entre les deux, tu as tellement raison de le mentionner, mais c'est aussi cette progression-là, Eric. La progression de l'attitude de Michkov. On a tellement eu de rapports qui provenaient de son équipe de la KHL, et c'est notamment pourquoi il y a 6 équipes qui sont passées sur Matvei Michkov. Dans les matchs préparatoires, tu l'as dit, tout peut bien aller. Il n'y en a pas de problème. Là, on pourrait partir en peur à Ottawa avec Shane Pinto hier avec une performance incroyable. Mais encore une fois, je le répète, comment ça va aller au mois de novembre? Là? Quand il va avoir un petit peu de moins de temps de glace, on va lui demander d'être responsable défensivement. Est-ce que ça va vraiment rester au beau fixe, cette relation-là? Est-ce que dans le vestiaire, on aura autant de présence positive et cette belle fougue qu'on semble tant aimer pour le moment? Moi, j'ai encore des doutes, mais puisque je souhaite du bonheur à tout le monde, j'espère qu'on va me prouver le contraire.
Ouais, et puis dans les filets, il y a un point d'interrogation. Bon, Fedotov est arrivé. Il est arrivé l'année passée en fin de saison. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais tu sais, Torts, là, je t'ai amené l'histoire, mais tu sais, souvent, Tortorella a agi de façon douteuse face aux médias. C'est un gars qui dit sa façon de penser. Mais c'est un gars, là, quand tu regardes, tout le monde connaît l'histoire de ce qu'il a fait avec le papa des frères Gaudreau. Il l'a invité il y a 2 semaines à une pratique parce que son papa habite dans ce coin-là. Il l'a invité à venir. Lui, là, il a dit, moi, je le fais pas pour la publicité. Je le fais pour aider Guy Gaudreau à faire son deuil. Il était autour de l'équipe pendant une journée. Il a embarqué sa glace. Il a été assistant. Il dit, il est toujours le bienvenu à revenir. Mais il faisait pas... Tu sais, Tortorella, là, c'est un gars qui te demande, triche pas, puis je vais tout te donner.
Ah, ben on a vu sa réaction, tu sais, face aux médias, là, l'an dernier, sa réaction face à... Là, j'ai un blanc de mémoire juste parce que je veux le dire, là, mais à son ancien joueur avec qui il n'y avait pas la meilleure des ententes. Là.
Nomme-en, là, il en a une cinquantaine.
Non, mais il est arrivé quelque chose par rapport aux médias, puis on a essayé de lancer ce joueur-là en dessous de l'autobus, et John Tortorella a répliqué aux journalistes, aidez-nous, s'il vous plaît, 514-790-0919.
Panarin? Pas il y a 2 ans.
Non, c'est pas du tout Panarin. C'était un joueur des Flyers avec qui il y avait une moins bonne entente. Okay. Il a dit, peut-être qu'on voyait pas toujours ça de la même façon, mais ce gars-là est un bon humain. He's a good man. T'es un bon homme.
Mais c'était pas avec Couturier?
C'était Hayes.
Hayes,
voilà.
Merci. Kevin Hayes.
Ah oui.
Et tu sais, demandez à Martin Saint-Louis ce qu'il en pense de John Tortorella. C'est un gars qui fait vraiment pas l'unanimité comme entraîneur, mais je pense que comme humain avec ses joueurs, tu sais, à moins le sauf erreur, là, on peut rien dire sur lui.
Non, parce que, je répète, Tortorella, ce qu'il te demande, c'est triche pas. Tu vas faire des erreurs, il y a des journées où ce ne seront pas des bonnes journées, triche pas. C'est tout ce qu'il te demande. Tu comprends? Puis, quand tu es un surdoué, talentueux, tu as triché parfois parce que tu étais tellement meilleur que les autres quand tu avais 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est une ligue tellement exigeante, tu peux pas tricher. Puis c'est pour ça que certains passent pas à travers. Certains qui devaient se retrouver sur un premier ou un deuxième trio vont se retrouver sur des troisième, quatrième trio et vont faire 5, 6 équipes dans leur carrière parce qu'ils vont jouer sur leur réputation. Fait que c'est à suivre. Tu sais, dans le cas de Pierre-Luc Dubois, puis c'était pas le but de la chronique, là, Pierre-Luc a probablement appris depuis, puis s'est dit, maintenant, je comprends ce que ça prend pour être un professionnel. Je peux pas tricher de présence en présence. Fait que Pierre-Luc, probablement qu'à Washington cette année, je le lui souhaite, ça va être concluant. Bon, on va voir. Mais
en même temps, Pierre-Luc Dubois, rappelons-nous, là, au début de sa carrière, là, et ça, on a tendance à l'oublier, parce que Pierre-Luc Dubois, il est tellement critiqué. Mais quand il a commencé sa carrière avec John Tortorella, là, rappelons-nous, il s'est levé, il est allé dans le bureau du coach, et il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu t'attends de moi pour que je puisse performer? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Et il y avait eu cette conversation-là au début avec John Tortorella. Et John Tortorella avait beaucoup respecté ce qu'il avait fait. Et je pense que somme toute, ça lui avait donné des outils pour progresser à ce moment-là aussi.
Tu sais, en conclusion avec cette histoire de Tortorella et Michkov, Tortorella a pris l'attitude. Je rappelle l'histoire à ceux qui l'ont jamais entendu. C'est Mike Bossy qui l'avait raconté. À l'Arbour, le premier camp d'entraînement de Bossy, quand il est arrivé, tout le long du camp d'entraînement, entre les exercices, il allait voir Arbour et dit « Où je dois me placer défensivement? Dis-moi où ce que je dois... » Et Arbour lui répondait jamais. Et après quelques tentatives, il a dit, écoute, coach, je veux savoir où je me place défensivement. Puis Arbour l'a regardé, il dit, t'as été repêché en quelle ronde? Il dit, première ronde. Il dit, d'après toi, pourquoi t'as été repêché? Il dit, ben, parce que je suis un compteur de buts. Tu comptes des buts, puis le reste, on va s'en occuper. Tu comprends? Le reste est histoire. Al Arbour, lui, il a été fidèle à cette philosophie. Compte des buts, ça va bien aller, et ça a très bien été pour Mike Bossy. Fait que là, ce que Tortorella dit, on a besoin de buts. On a besoin de compter des buts. Ce que je veux que Michkov crée de l'offensive. On va voir combien de temps ça va durer, parce que c'est pas le même style de coach. Et puis, Torts, c'est un gars, il faut le dire, exigeant.
Ouais. Et exigeant, mais comme tu l'as dit, les joueurs qui n'ont pas triché, qui ont démontré un jeu responsable,
oui,
dans la grande majorité des cas, ont aimé Torts. Oui, Ali?
Et le meilleur exemple de ça, c'est Martin Saint-Louis.
Exact, ben oui.
Qui est un gars, tu sais, évidemment, Martin Saint-Louis, pas le plus gros, pas le plus talentueux nécessairement sur papier, un gars pas repêché. Et il a brillé avec John Tortorella. Il a gagné la Coupe Stanley avec. John Tortorella va récompenser les joueurs qui jouent de la bonne façon, qui s'impliquent, qui sont dédiés à leurs équipes. Et c'est avec les joueurs talentueux qui n'ont pas la bonne attitude qu'évidemment que ça laisse à désirer.
Exactement. Merci à tout le monde qui nous ont aidé à trouver la réponse de Kevin Hayes. Ça nous arrive, hein, nous autres, avec d'avoir des petits blancs de mémoire comme ça quand on est en onde. Football, Cowboys, Steelers. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vieille école, de plus old school que ça, Eric?
Écoute, c'est deux organisations avec deux philosophies complètement différentes. Tu as les Cowboys, l'équipe la plus riche, l'équipe sportive la plus riche de la planète à une valeur estimée qui agit pas en tout
comme ça d'ailleurs. Hein? Okay.
Pardon?
Qui agit pas en tout comme l'équipe la plus riche de la planète en passant. Hein?
Ben, il a quand même donné un gros contrat à Prescott, il a quand même donné un gros contrat à CeeDee Lamb, il va éventuellement donner un contrat à Parsons. T'sais, il a quand même, mais tu sais, c'est Jerry Jones, c'est un gars qui fait de l'ingérence. La famille Rooney ne fait jamais d'ingérence. Jerry Jones a montré de la loyauté à Mike McCarthy, de la fidélité présentement, mais ça marche pas pendant la saison. L'année prochaine, il sera plus là. La famille Rooney ont eu 3 instructeurs depuis 50 ans. Et puis, pour les gens qui le savent pas, maintenant, on appelle les Cowboys de Dallas, et c'est l'une des raisons pourquoi c'est une équipe qui est taillée par une partie des partisans de la NFL. America's Team, pardon.
America's Team, oui.
Mais l'équipe qui avait été ciblée par la NFL à la fin des années 60, début des années 70, c'était les Steelers de Pittsburgh. Et Art Rooney, à ce moment-là, avait dit non. Nous autres, on est l'équipe de col bleu de Pittsburgh. On n'est pas America's Team. Puis c'est là où je veux dire que c'est deux philosophies différentes. Les Steelers de Pittsburgh, la ville de Pittsburgh, c'est une philosophie de travaillant, travailleur, alors que les Cowboys, maintenant, c'est une équipe des riches, des populaires. T'as beaucoup de gens là qui gravitent autour des Cowboys de Dallas. On se rappelle les légendaires cheerleaders. Alors, c'est deux philosophies complètement différentes. Moi, je suis partisan des Steelers depuis tout petit, puis je me suis promené dans d'autres ligues, d'autres sports, et jamais que je n'ai arrêté mon allégeance pour les Steelers à cause de cette loyauté de la famille Rooney, de cette stabilité-là. Donc, c'est vraiment deux équipes complètement différentes, deux équipes qui ont eu beaucoup de succès, qui ont gagné plusieurs Super Bowls, mais aujourd'hui, encore une fois, tu as une équipe, les Steelers, qui sont efficaces. La course au sol, ils sont 10e dans la ligue. Les Cowboys, c'est difficile, à part le dernier match, c'est difficile la course au sol. Ils sont 27e. Ils ont quelques blessés. Micah Parsons, DeMarcus Lawrence sont blessés. Fait que j'ai hâte de voir ce match-là, comment ça va se passer, parce que c'est important pour les Cowboys. Les Steelers, on les attendait pas. Justin Fields, bon match, le dernier match, même si les Steelers ont perdu. Ouais. 300 verges par la passe, 50 verges au sol, 2 touchés au sol. C'est, je veux dire, il a bien fait. Mais on les attendait pas, les Steelers, parce
Justin
que...
Justin Fields, en passant, là, qui a des meilleures statistiques que Pat Mahomes. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est comme ça depuis le début de la saison.
Ouais, exactement. Les Steelers ont une bonne défensive. Ça a été moins glorieux la semaine passée. Fait que c'est un match assez important. Un match du dimanche soir. Je suis sûr qu'NBC va faire beaucoup de profils par rapport à toute la rivalité historique entre ces deux organisations-là. Jerry Jones, qui veut absolument être le GM aussi de cette équipe, qui, lui, a une urgence de gagner à cause de son âge vénérable. La famille Rooney, c'est la continuité. Mike Tomlin. Fait que je te dirais que...
Là, le problème, Eric, avec les Cowboys, t'sais, je veux dire, l'ingérence du propriétaire, tu dis, il y a une urgence de gagner. Tu sais, les Steelers n'ont pas gagné récemment un Super Bowl non plus, mais on doit laisser les hommes de football qu'on met en place gérer leurs équipes. Et
bon point.
Jerry Jones en s'ingérant à chaque fois, et c'est frustrant pour les partisans des Cowboys de Dallas, c'est frustrant pour je veux dire, l'image de cette équipe-là. Et ce serait le fun à un moment donné que Jerry Jones le voit, ça. Que ça nuit que ça lui nuit à lui et que ça nuit à la formation qu'il a sur le terrain et aux partisans de l'équipe de s'ingérer dans tout ça. Puis ils gagneront pas de Super Bowl de sitôt s'ils continuent de faire ça, à mon avis.
Ben, tu sais, ils ont quand même. Dak Prescott est souvent critiqué, mais c'est un des carrières qui a les meilleurs stats. C'est un bon carrière. Je pense que c'est un bon leader. Je pense que c'est une bonne personne. Je pense qu'il a les bonnes valeurs à la bonne place. Il n'est pas tout seul, naturellement. Mais dans le cas des Cowboys de Dallas, ça ne changera pas. Là. Jerry Jones ben non, le dit à chaque sûr. Fois, à chaque année. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ce que je suis capable. Il n'y a personne d'aussi compétent que moi pour gérer cette équipe-là. Fait que tu comprends, il est borné. Ça ne changera pas que l'équipe est à lui. Et, à preuve du contraire, il réussit parce qu'il vaut 10 milliards. L'équipe vaut 10 milliards. Il a acheté ça pour une bouchée de pain. Là. C'était pas un des hommes les plus riches de la planète qui a acheté les Cowboys dans les années 90, les années 80. Tu comprends?
Solide placement. Je te souhaite une victoire des Steelers, chose qui m'arrive pas beaucoup. On va voir ce match-là certainement. Bon tailgate, mon chum. Merci encore d'avoir été avec nous autres. Puis j'ai déjà hâte de te reparler samedi prochain.
Olivier, Greg, bon dimanche.
Merci à toi aussi, Eric.
Bye bye.
On l'a dit, le calendrier préparatoire qui est enfin fini. Trois jours, trois dodo. Mercredi prochain, le premier match. On vous revient sur ce qu'on attend, les coupeurs qui s'en viennent, la lutte pour les postes, notre question du jour, tout ça. Dans deux minutes, bougez pas trop.